Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christophe Ventura, par ailleurs directeur de recherche à l'IRIS, et on va parler avec lui du Mexique. Parce que le 1er juillet, un nouveau président mexicain a été élu qui vient un petit peu changer la donne dans ce pays, Andrés Manuel López Obrador. Il prend ses fonctions le 1er décembre. Christophe Ventura, vous étiez au Mexique au cours de la campagne, vous avez couvert les élections, vous y retournez bientôt avant l'inauguration, et vous connaissez personnellement le nouveau président mexicain.
Oui, j'ai la chance de le connaître, puisque je suis son parcours en fait depuis qu'il était maire de Mexico, ça me renvoie aux années 2005 par là, et donc je l'ai suivi en 2006 et 2012 lors de ses deux premières candidatures à la présidentielle, et je l'ai rencontré en fait en 2015, à l'occasion d'une venue à Paris. Il venait à Paris parce qu'il faisait un voyage, il sort pas beaucoup du Mexique en général, c'est pas quelqu'un qui est naturellement porté vers l'international, et il passait à Paris pour venir en fait saluer et rencontrer les militants de son mouvement qui s'appelle Morena, qui veut dire mouvement de régénération nationale, qui a été lancé justement à la sortie de l'élection de 2012, qu'il a perdu à l'époque en partie à cause d'une fraude électorale. Et donc il venait à Paris pour rencontrer les Mexicains, en fait, finalement, de Paris et d'Europe. Et je l'ai rencontré à ce moment-là. Et je lui ai proposé d'organiser une conférence magistrale à la Maison de l'Amérique latine, qu'il a accepté de faire. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, que j'ai pu travailler un petit peu avec lui dans le cadre de la préparation de cette conférence qui a eu lieu en 2015.
Alors, en quoi son élection est importante et est-ce que cela signifie un réel changement à la fois de politique intérieure et de politique extérieure? On va aborder l'une après l'autre. Est-ce qu'il a été élu sur un programme de justice sociale, de lutte contre la corruption? Beaucoup de ses prédécesseurs ont promis la même chose. Est-ce que, en quoi il y aura une vraie nouveauté après son intronisation en décembre?
Ben, je crois que le fait majeur qu'incarne l'élection de López Obrador au Mexique, c'est que c'est une véritable insurrection démocratique au Mexique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à percevoir depuis l'Europe, où étrangement le Mexique apparaît comme un pays stable et normal, alors qu'en fait il s'agit d'un pays dont le stade de décomposition sociale, institutionnelle et politique est hélas très avancé, et c'est un pays qui est au bord, disons, de rentrer dans la catégorie des États faillis. Et donc le vote Obrador...
Oui, on a plutôt l'image d'un pays avec des institutions solides, pérennes, voire même un petit peu trop fortes.
Oui, mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt, forte dans le sens où c'est un système politique qui n'est démocratique qu'en partie, dont l'ouverture a été lentement négociée par le Parti révolutionnaire institutionnel depuis 70 ans. Il y avait plutôt une alternance au pouvoir depuis 2000, mais qui n'était pas une vraie alternative politique, qui était une alternance entre, disons, des partis qui représentaient à peu près les mêmes intérêts. Et l'arrivée d'Obrador, c'est précisément, vient fissurer, en réalité, ce consensus-là au Mexique, parce que les gens ont utilisé le bulletin Obrador pour plusieurs choses. La première, c'est pour en finir avec la corruption, l'état de pourrissement de la société mexicaine, et en particulier de l'État et des partis politiques. Ce faisant, en terminer aussi avec ce bipartisme entre le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, et le PAN, qui est le Parti d'Action Nationale, ils ont voulu mettre quelqu'un de nouveau en fait en place pour tenter de sauver en quelque sorte le Mexique de cette dynamique de décomposition là, quelqu'un de nouveau qui en même temps était déjà très impliqué dans la vie politique, mais qui a su construire autour de lui un mouvement politique qui est à la fois nouveau et innovant par rapport à la place qu'il a laissée à beaucoup d'acteurs de la société civile mexicaine, qui elle est très riche depuis des années, confrontée à toutes les problématiques de narcotrafic, de violence, etc. Beaucoup de gens se mobilisent dans la société mexicaine et il a su les fédérer pour prendre le pouvoir. Donc je parle d'insurrection démocratique parce que les gens veulent, avec Obrador, ce changement-là avant toute chose. Et le cœur de son programme, ça a été la lutte contre la corruption, entendue chez lui comme justement le moyen de régénérer, disons, la démocratie mexicaine.
Alors, où en est l'état de la corruption au Mexique? Est-ce qu'elle est générale? Est-ce que ça explique beaucoup la force et la puissance du trafic de drogue? Il y a un degré de violence dû à ce trafic de drogue qui est bien supérieur presque au coût d'une guerre civile. Pouvez-vous décrire à peu près où en est aujourd'hui la société mexicaine?
La société mexicaine, c'est une société ultra-violente. Encore cette année, en 2017, les chiffres sont accablants. C'est l'année la plus violente au Mexique depuis 20 ans, depuis qu'il y a des statistiques suivies. C'est l'année la plus violente, malgré 10 ans, 15 ans de soi-disant lutte contre le crime organisé, de guerre contre le narcotrafic. En fait, tout ça a amené le pays dans, une situation qui est bien pire encore qu'il y a 10 ans en termes...
Est-ce qu'on peut distinguer la violence, je dirais, ordinaire, la criminalité dans tous les pays, avec la violence liée au trafic de drogue? Quels sont les chiffres de la violence, du nombre de tués?
Cette année, par exemple, au Mexique, en 2017, on estime à entre 30 et 35 000 le nombre de morts extrajudiciaires au Mexique. Alors, on a du mal à dissocier, en fait, de mettre des catégories dans ces meurtres, parce que c'est des règlements de compte, c'est des meurtres qui sont liés à la délinquance, petite ou grande, c'est des meurtres qui sont liés à la violence générée par le narcotrafic qui se spécialise dans d'autres formes de violence, le racket, les prises d'otages, le rançonnage d'enfants de famille, soit dans les classes riches du pays, ou soit dans les très pauvres avec la traite des migrants, parce que les migrants, en fait, et le règne des passeurs, etc., est directement lié aux mafias, en fait, qui sont liés au narcotrafic. Et là aussi, il y a des systèmes de prise d'otages, de rançons, etc., des familles les plus pauvres, surtout quand elles arrivent par ailleurs des pays du sud, du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador, qui envoient leurs enfants vers les États-Unis par des chaînes qui sont contrôlées, en fait, par le narcotrafic et les cartels, les fameux cartels mexicains, qui se sont spécialisés dans, disons, sont devenus des entrepreneurs de la violence avec tout un tas d'activités lucratives et qui génèrent toute cette violence partout. Donc, dissocier, c'est difficile. En tout cas, les racines, c'est évidemment le narcotrafic, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, c'est aussi l'impunité qui existe au Mexique, parce que le Mexique est un pays qui est confronté à un gros problème d'impunité, dans le sens où 92% des meurtres au Mexique, des de droits communs, ne sont jamais solutionnés. Il y a là toute une chaîne qui est complexe à expliquer, mais qui va de la corruption à la lenteur, à la liquéfaction de l'État, en fait, et des administrations, à leurs difficultés, à être efficaces. Tout ça s'ajoute et se combine pour créer des dynamiques d'impunité qui font que les cas ne sont pas traités, en réalité.
Alors, qu'est-ce que va proposer le président Obrador de nouveau? Comment va-t-il faire pour réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration de la situation par rapport à cette violence et au narcotrafic en vue?
Alors, je crois qu'il ne faut pas attendre d'Obrador, des coups de semonce ou des choses, radicales ou brutales. Obrador ne sera pas ni Lula du Brésil des années 2002, ni Rafael Correa. Ce ne sera pas le même genre de leader, et ce ne sera pas le même genre de programme non plus. Il faut bien comprendre que Obrador, encore une fois, arrive à la tête d'un pays qui est quasiment en état failli. Il arrive à la tête d'un pays qui est marqué par des phénomènes qu'on connaît, ce qu'on appelle les états profonds. Par exemple, vous avez un appareil de sécurité, un appareil militaire qui a sa propre feuille de route, des intérêts troubles qui sont souvent poreux, qui sont liés aussi à la corruption et au narcotrafic. Obrador est lié à un appareil médiatique ultra puissant, est lié à un voisin américain qui pèse énormément dans la vie politique nationale, et un état défectueux globalement. Donc il va pouvoir agir, mais dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, sa feuille de route, c'est la lutte contre la corruption. Donc ce qu'il veut faire, c'est nettoyer et rendre exemplaire, la fonction publique, toutes les administrations, par toute une série de programmes qui existent déjà et qui sont des programmes qui visent en quelque sorte à améliorer le contrôle et la transparence au sein de l'appareil d'État et au sein du travail des fonctionnaires dans l'octroi, l'attribution des marchés publics, par exemple, dans le fait de digitaliser toute l'information sur les transports de marchandises, les douanes, enfin tout ce qui est lié à ces choses-là. On va aller vers plus de transparence, plus de digitalisation et plus de contrôle de l'action publique. Donc ça, selon lui, parce qu'on considère au Mexique que la corruption représente entre 2 et 5% du PIB. Les chiffres sont discutés, mais c'est à peu près ça. Ça représente déjà quelques centaines de millions, voire quelques milliards en dollars. Donc le but de Obrador, c'est d'abord d'assainir en fait toute cette partie-là, parce qu'il a la main là-dessus, en fait, il a la main dessus, il peut l'avoir. Beaucoup plus à court terme qu'il ne peut l'avoir sur l'armée, l'appareil de sécurité, Donald Trump ou même le narcotrafic. Sur cette partie-là, il peut avoir de l'action et il peut générer des ressources qu'il va utiliser, enfin qu'il dit vouloir utiliser, pour mettre en place des programmes publics, des programmes sociaux en matière d'éducation, de santé, de création d'emplois et aussi de relance de l'agriculture au Mexique, qui a été largement, lapidé par le traité de l'ALENA, de libre-échange nord-américain, pour aller vers une souveraineté alimentaire. Il veut conserver aussi, dit-il, la main sur le secteur énergétique mexicain, qui est un peu la poule aux œufs d'or au Mexique. Et il refuse, par exemple, qu'il va mettre un terme en fait à la réforme qu'a mis en place son prédécesseur Peña Nieto, consistant à privatiser en fait la compagnie pétrolière et d'ouvrir toujours plus le marché pétrolier à des entreprises étrangères, en particulier aux multinationales du secteur nord-américain. AMLO a dit qu'il allait faire une sorte, disons, de moratoire, hein, c'est-à-dire il va laisser les choses en l'état, mais il ne va pas approfondir. Donc il veut garder la main sur le secteur pétrolier pour pouvoir là aussi revoir les contrats un à un qui ont été octroyés par la société à des sous-traitants et d'autres sociétés pour l'utilisation du pétrole. Donc de ce point de vue-là, il y a certainement chez lui la volonté d'utiliser un peu plus la manne pétrolière pour financer l'État. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est vers ça qu'il veut aller, pour en fait peu à peu avancer dans le système de contraintes dans lequel il est, sans prétendre le remettre en cause ou le transformer d'un coup de balai, parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de le faire, mais il veut s'octroyer à l'intérieur des espaces, en quelque sorte, et des niches, dans lesquelles il va mettre en place des programmes qui vont soulager la population et peu à peu, disons, remettre un mouvement de dynamique vers l'avant, du point de vue social et du point de vue de l'insertion des Mexicains dans un marché de l'emploi plus structuré, avec des gisements d'emplois nouveaux, etc., etc. C'est comme ça qu'il veut travailler au niveau national.
Donc en fait, pas de révolution, comme certains l'annonçaient, mais plutôt un changement graduel et plutôt avec des ambitions relativement modestes ou réalistes en tous les cas. Donc pour lutter d'abord contre la corruption, redonner à l'État les moyens d'agir et améliorer la situation sociale, mais de façon très graduelle et mesurée.
C'est ça, c'est la ligne aujourd'hui de AMLO, c'est celle-là. C'est de ne pas bousculer le système, parce qu'il considère qu'il fait l'analyse qu'il n'en a pas les moyens, en réalité. Rappelant qu'avoir être chef du gouvernement ne signifie pas avoir tous les pouvoirs dans la société, mais graduellement, effectivement, aller vers des modifications qui, si cela fonctionne, pourront créer une dynamique politique, une dynamique nouvelle, qui permettra d'aller plus loin, en fait, à chaque fois. C'est ça, sa philosophie du pouvoir, elle s'inscrit là-dedans, avec un lien très fort, encore une fois, à la démocratisation permanente, en fait, du Mexique, de son administration, son appareil d'État. AMLO va faire rentrer au gouvernement beaucoup de gens qu'on travaille depuis des années dans des associations, des ONG, sur les droits humains, etc.
Vous décrivez une société civile qui est très forte, on ne le perçoit pas toujours comme cela vu de France. Pouvez-vous évoquer un peu l'état de la société civile mexicaine ?
Je crois que c'est une société civile qui est en fait le produit finalement des blocages de cette société et de sa violence, pour revenir au thème de départ. Quand vous avez un État qui est défectueux, dont les services publics ne fonctionnent plus ou très mal, ou lorsqu'ils sont la proie d'une privatisation, voire d'une captation par des clans politiques, etc., qui en fait finalement font... amène à l'ennemi finalement institutionnel, vous avez la société qui réagit, et c'est ce qui se passe au Mexique depuis 25 ans. Ce que, disons, la sphère politique et institutionnelle ne permet pas en termes de gestion des demandes sociales, ça s'organise dans la société, et face à cela, face aux violences, face au narcotrafic et face à la pauvreté, aux inégalités qui ont explosé dans ce pays, le Mexique depuis au moins 30 ans a vu surgir de grandes vagues de mouvements sociaux. Il y a eu par exemple dans les dernières années un mouvement d'étudiants en faveur de la gratuité de l'éducation qui a été très puissant dans les années 2010, qui a d'ailleurs été un des substrats du mouvement d'AMLO, très puissant dans les villes. Vous avez eu ce mouvement aussi toujours lié à l'éducation qui a souhaité travailler dans les zones rurales mexicaines pour alphabétiser et permettre de former des enfants pour qu'ils évitent de tomber dans la criminalité par simplement souci de survie, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des mouvements comme ça avec des associations d'enseignants, de professeurs qui sont très très importants. Vous avez des ONG qui sont très impliquées contre, enfin pour le respect des droits humains, dans le suivi des observatoires, les violences, enfin tout ça, qui documente énormément les convulsions de la société mexicaine, etc. Et qu'on formait, en fait, depuis une vingtaine d'années, des acteurs sociaux très, très actifs, très dynamiques dans la société, et qui fournissent aujourd'hui une partie des cadres du mouvement d'AMLO. Et tout ça est très fort. Vous avez aussi dans la sphère informative, par exemple, des médias qui travaillent alternatifs très importants au Mexique, qui font un travail d'enquête et d'investigation sur le crime, les relations entre l'État et les narcos, tout ça au péril de leur vie. Hein. Encore une fois, cette année, vous avez des centaines de journalistes qui sont morts au Mexique pour informer les gens et créer une conscience différente dans ce pays. Donc voilà, il y a des exemples comme ça au débeauté.
Alors le président Obrador va avoir face à lui un autre président, le président Trump, qui a démarré cette semaine de façon spectaculaire la construction du mur qui va séparer le Mexique. Son prédécesseur avait accepté une renégociation du traité de libre-échange d'Amérique du Nord. Que va faire Obrador par rapport à Trump? Comment va-t-il gérer le phénomène Trump?
Alors là aussi, on voit bien ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, la recherche est celle d'une cordialité, d'une relation qui ne souffre pas de préjugés ou d'a priori. AMLO veut avoir de bonnes relations avec Trump, c'est ce qu'il a exprimé dès le soir de sa victoire le 1er juillet. Ils se sont parlé plusieurs fois par Twitter, puis ensuite directement par téléphone, puis M. Pompeo est arrivé à Mexico pour rencontrer AMLO. Tout ça, pour l'instant, fait montre de cordialité,
oui, AMLO, etc. AMLO, c'est Andrés López Manuel Obrador, le surnom
du nouveau président mexicain, parce qu'il est beaucoup plus court et moins compliqué que son nom réel. Donc, la stratégie d'AMLO par rapport à Trump, c'est d'avoir de bonnes relations. C'est d'avoir de bonnes relations, de se montrer prêt à continuer tous les processus de coopération avec les Américains, et ils sont très nombreux au Mexique. Il y a l'affaire de l'ALENA, on en a parlé, la renégociation difficile de l'ALENA, mais il faut savoir aussi que la présence américaine au Mexique, elle existe par l'implantation très forte de ses entreprises, de ses banques, etc. Mais aussi, par exemple, d'un plan qu'on appelle l'initiative Mérida, et qui est en fait la coopération sécuritaire et de lutte anti-drogue, en fait, qui est financé en partie par Washington et le Congrès au Mexique. Donc il y a des plans de coopération et des accords financiers entre les deux États qui sont liés pour la formation de l'armée mexicaine, de sa police, de ses services de renseignement. Enfin, tout ça est très noué. Donc là encore, AMLO dit on va continuer tous ces processus-là, mais ce que veut AMLO avec Trump, c'est le respect de la souveraineté mexicaine. C'est ça qui va faire, à mon avis, la caractéristique de la boussole de son lien, de son évolution avec Trump.
Mais concrètement, est-ce que l'on peut avoir une relation avec Trump telle qu'il est lorsqu'on est le président du Mexique, qui met en avant la souveraineté du Mexique, tout en ayant des bonnes relations avec Trump? Parce que est-ce que Trump ne va pas vouloir pousser son avantage et nier les revendications mexicaines?
Alors c'est le risque, c'est en fait la question à laquelle on peut pas répondre aujourd'hui, parce que c'est en fait ce qui va se passer les prochains mois qui va nous le montrer. Mais on va avoir quelques tests pour rapidement pour voir la solidité des affirmations d'AMLO. Je parlais de la question énergétique tout à l'heure. Ça c'est un point clé, parce que ce que souhaite Donald Trump dans la renégociation de l'ALENA, c'est la possibilité d'y inclure intégralement justement le secteur pétrolier mexicain. Ce que ne souhaite pas AMLO, et ce qu'AMLO a signifié déjà à Donald Trump sur le fait que précisément le secteur pétrolier n'irait pas plus loin en quelque sorte dans la privatisation et l'ouverture aux capitaux internationaux. Donc ça va être un point crucial pour tester, disons, la capacité de résistance d'AMLO au souhait de Donald Trump. AMLO prend des initiatives qui, aujourd'hui, montrent que les choses ne seront pas simples, parce que, par exemple, sur la question migratoire, AMLO a dit non à toute forme de financement de l'État mexicain du fameux mur. Donc ça fait partie de son programme. Et deux, AMLO va lancer un plan de renforcement des représentations mexicaines aux États-Unis pour ouvrir chaque consulat mexicain, il y en a une quarantaine, je crois, aux États-Unis, pour être des lieux d'accueil pour le renforcement des droits des Mexicains aux États-Unis, hein, avec des moyens financiers, etc., qui seraient alloués, des moyens diplomatiques nouveaux. Donc ça laisse quand même entendre, effectivement, que AMLO a une ligne par rapport à Trump, c'est de ne pas être discourtois, mais c'est de ne pas être être non plus vassalisé. Et là, il a montré des points.
Il fut un temps où le Mexique avait une politique étrangère très dynamique, c'était un peu le champion du tiers-monde dans les 70, puis ça s'est un petit peu évanoui. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous pensez que le Mexique va reprendre un peu ce rôle de qui secoue un peu le cocotier au niveau international?
Alors, directement, je ne crois pas. Disons, pas par une politique proactive ou pas par quelque chose de trop ostentatoire au niveau international. Ce qui va se passer, à mon avis, est la chose suivante. C'est que la ligne du gouvernement mexicain va changer dans les relations internationales, à commencer au niveau régional, latino-américain, mais par le biais suivant, à savoir que la ligne sera celle d'un Mexique non interventionniste. Donc, le Mexique va d'abord avoir une politique plutôt nationale, hein, et plutôt justement de ne pas intervenir dans les dossiers internationaux de manière trop forte, sous-entendu, de manière trop liée aux intérêts de Washington dans la région latino-américaine. Je m'explique, le Mexique aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est un pays clé et central dans la coalition des pays qui sont mobilisés contre, par exemple, le Venezuela dans la crise vénézuélienne, ou au Nicaragua dans la crise nicaraguayenne, ou aujourd'hui, même s'ils ont encore de bonnes relations, qui ne condamnent pas les États-Unis dans le durcissement, par exemple, du processus de normalisation des relations avec Cuba. Avec AMLO, ça va changer, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui va arriver, c'est que le Mexique va se retirer de ses coalitions et va ne pas intervenir dans les dossiers extérieurs, ce qui est déjà une forme, en quelque sorte, disons, de retrait, de pas de côté, en tout cas, plutôt que de retrait.
Mais au moment où le Brésil rentre dans des difficultés énormes, qui seront peut-être accentuées si le candidat d'extrême droite est élu le mois prochain, est-ce qu'il y a un espace pour le Mexique de reprendre le leadership en Amérique latine, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'intéresse pas le président Obrador?
Alors, je crois que on est entre les deux, si je puis dire. Obrador est quelqu'un qui n'a pas une culture internationale, mais c'est assez mexicain ça, quand on est un peu dans le bocal et qu'on suit tout ça. Il y a d'abord l'idée, la philosophie d'AMLO en général, c'est il faut gouverner par la preuve. Il faut d'abord qu'on soit capable de faire de bonnes politiques au Mexique qui remettent le Mexique sur pied, qui en refont un État digne, etc., pour pouvoir précisément rayonner et pouvoir donner des leçons aux autres. En gros, c'est ça qui guide son action. Donc sa priorité, c'est le Mexique. Mais, encore une fois, par rapport à la question régionale internationale, il a l'idée d'un Mexique qui a une place dans le concert des nations. Donc, la première étape, ce sera rétablir le pays dans son idée pour pouvoir rayonner au niveau international. Mais il ne va pas d'emblée créer un front international comme ont pu faire ses prédécesseurs, Lula, etc. Ça, je ne crois pas. En revanche, je vous dis, il va se faire un pas de côté par rapport, disons, au suivisme par rapport à Washington. Il va moins rentrer dedans.
Au moment où le président Macron veut lancer tout un débat sur le multilatéralisme qui est en crise, est-ce qu'il y a un axe qui existait dans le passé entre François Mitterrand et le président mexicain? Est-ce qu'il y a un axe franco-mexicain qui peut se mettre en place d'un point de vue stratégique? Et dans un second temps, de la question, est-ce que les relations économiques entre la France et le Mexique vont connaître un nouveau dynamisme?
Alors cet axe serait souhaitable, il y aurait un espace pour qu'il se crée. La difficulté aujourd'hui, c'est que la politique latino-américaine du gouvernement français de Emmanuel Macron, on la cherche. Aujourd'hui, c'est quand même le parent pauvre de la diplomatie française. Ça redevient l'Amérique latine, beaucoup plus que ça n'était le cas ces dernières années. Il n'y a aucun effort qui est fait vers l'Amérique latine, vers aucun pays, alors que le Mexique dispose d'un partenariat stratégique avec l'Union européenne et la France. Et donc, le Mexique est un pays naturellement important pour la France, puisque c'est un de ceux où la France est activement la plus forte en termes de commercial, même si c'est mesuré par rapport au commerce français, mais enfin c'est là-bas que ça se passe avec la Colombie et le Brésil. Donc oui, il y aurait un axe. Le Mexique est un partenaire de choix pour la France sur beaucoup de dossiers multilatéraux. Je pense évidemment à la question climatique, environnementale, où le Mexique a voulu jouer un rôle d'ailleurs ces dernières années, et il a joué un rôle. Là, c'est des choses qu'on peut faire avec le Mexique qui sont immédiates, qui sont concrètes, et qui permettent en plus au Mexique, de ne pas créer un nouveau front ou de s'engager sur un nouveau sujet puisqu'il a été actif. Donc là, il y a des choses à faire. Il faudrait que ce soit comme ça, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne voit pas la politique française de Macron en Amérique latine. Quant à AMLO, la France est un pays qui existe pour lui. C'est déjà un point important.
Et les entreprises françaises ont un espace. Est-ce que les relations économiques entre les deux pays sont bonnes, peuvent-elles s'améliorer?
Alors, elles sont bonnes, elles peuvent s'améliorer à l'aune précisément de l'incertitude et des indécisions liées au rapport entre le Mexique et les États-Unis. Selon l'évolution de la renégociation de l'ALENA, qui encore aujourd'hui est très incertaine, en fonction de ça, il y a des espaces à prendre pour des savoir-faire français en matière technologique, en matière de comment dirais-je, d'industrie, industrielle directement, parce que le Mexique a ce profil-là. Il est moins primarisé, c'est-à-dire moins lié directement aux ressources naturelles et directement premières et agricoles que beaucoup de pays éto-américains. C'est un pays qui est inséré dans des chaînes de valeur à valeur ajoutée, avec tout ce qui est lié aux productions industrielles, à la télécommunication, à l'automobile, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels les entreprises françaises ont à parler avec le Mexique. Et le Mexique, aujourd'hui, et c'est même déjà un peu avant AMLO, le Mexique qui voit bien les difficultés avec les États-Unis est d'ores et déjà dans une stratégie de diversification de ses partenariats économiques. C'est vrai avec la Chine, bizarrement. C'est vrai avec d'autres pays éto-américains et c'est vrai que des pays européens, les Italiens par exemple, sont plutôt en place, les Espagnols aussi. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des choses qui bougent au Mexique et qui devraient intéresser l'industrie française.
Merci Christophe Ventura pour ce tour d'horizon politique et stratégique et économique du Mexique. Et donc, le président Obrador va prendre ses fonctions début décembre.